La première lecture nous ramène très loin au temps d'Abraham et de la promesse que le Seigneur lui fait. Le Seigneur, en fait, fait une triple promesse à Abraham. Il lui promet trois choses. Sa bénédiction, une descendance, une terre. Alors, ce qui semble faire le plus problème, pour l'instant, c'est la descendance, parce que Abraham et Sarah sont très âgés, et donc, probablement, c'est trop tard, donc il n'y aura pas de descendance. Alors, à vue humaine, effectivement, il ne peut plus y avoir de descendance pour Abraham et Sarah. Cela dit, si on lit la Bible, on a l'impression qu'il y a plus de descendance quasiment impossible que de descendance assez naturelle. Alors, effectivement, il va y avoir une descendance parce que Dieu le veut et que quand Dieu veut faire surgir la vie quelque part, eh bien, il y arrive. Alors, pourquoi c'était important, puisqu'on est dans le temps de Noël, qu'il y ait une descendance à Abraham ? Eh bien, dans le temps de Noël, on entend toujours dire que Jésus descend de David et d'Abraham. Le soir de Noël, on lit un peu avant la messe de Noël, par exemple, l'évangile qui nous raconte toute la généalogie de Jésus depuis Abraham. Il fallait absolument faire naître Jésus de la descendance d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc., jusqu'à, alors on passe par David, par Salomon, et puis à la fin, alors je ne retiens jamais les noms des derniers, ils ne sont pas connus, je crois qu'il y a de nouveau un Jacob, voilà, qui engendra Joseph. Alors là, il y a un problème, parce que normalement, si c'était régulier, on aurait engendra Joseph, qui engendra Jésus, sauf que ce n'est pas comme ça que ça passe. Donc c'était très important de faire naître Jésus dans la lignée d'Abraham. Et pour ça, Dieu utilise des moyens étonnants, à la limite parfois de ce qui est permis par la loi qu'il a donnée lui-même. Par exemple, à un moment, prendre une prostituée pour assurer la descendance. À un moment, prendre une étrangère, ce n'est pas permis normalement, une vraie descendance juive. Mais il fallait absolument arriver à cette descendance jusqu'à Jésus. Et donc, Dieu fait ce qu'il faut. Et là, en l'occurrence, donner un enfant à un couple extrêmement âgé. Pourquoi est-ce qu'il fallait arriver jusque-là, puisque à la fin, on arrive à Joseph, non pas qui engendra Jésus, mais Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Donc cette descendance tout à fait verticale, pour arriver à la fin à un petit pas de côté, pour nous dire, c'est pas exactement comme ça, en fait, que ça se passe. Et quand bien même on dirait, oui, mais Joseph, c'est quand même l'époux de Marie, donc finalement, la descendance, elle est quand même bien assurée. Bon, très bien, mais à la fin, ça s'arrête quand même. Parce que, je ferai remarquer, on sait tous, que Jésus, lui, n'aura pas de descendant. Donc, de toute façon, cette lignée, au sens le plus naturel, au sens le plus charnel, à un moment, elle s'arrête. Et du coup, on peut se demander, qu'est-ce que c'est qu'avoir un descendant? Si le but, c'était d'avoir, comme ce qui était promis à Abraham, une lignée quasiment infinie, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. En fait, elle n'est pas aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Saint Matthieu nous dit, ils sont 42. Voilà. Ils nous séparent en trois parties, 14 jusqu'à David, puis 14 jusqu'à l'exil à Babylone, puis encore 14. Voilà. Il y a un peu plus que 42 étoiles dans le ciel. Donc à un moment, ça s'est arrêté. Voilà. Et donc je pose la question, qu'est-ce que c'est qu'avoir une descendance, puisque à un moment, ça s'arrête. La deuxième lecture donne déjà une certaine ouverture, un certain élargissement, puisque elle nous parle de la réalisation des promesses faites à Abraham, et nous dit que ça s'est fait, en fait, par la foi. Dans la première lecture, déjà, on dit que Abraham eut foi dans le Seigneur. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, par la foi, Alors par la foi, Abraham partit. Alors là, il s'agit moins de descendance que de la deuxième promesse, la terre. Donc Dieu avait aussi promis une terre à Abraham. Et donc l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, Abraham est parti vers cette terre, mais pas tout à fait, est parti sans savoir où il allait. Alors nous qui avons lu la suite de la Bible, on sait d'ailleurs que cette terre que Dieu lui a promise, il va la traverser, il va s'y arrêter mais peu de temps, mais il ne va jamais s'y établir. Finalement, le seul moment où il va y reposer pour l'éternité, c'est après sa mort. Parce qu'il y aura une tombe qui va être achetée pour lui. Donc, mais il n'aura jamais vécu dans cette terre que Dieu lui avait pourtant promise. Voilà, donc deuxième promesse que Dieu fait, après la descendance, la terre, bah, la promesse est-elle réalisée? Oui et non. Pas autant sans doute que Abraham aurait pu le comprendre. Abraham n'a jamais possédé la terre que le Seigneur lui avait promise. Donc là, je pose une deuxième question, qu'est-ce que c'est que posséder une terre? Avoir une descendance et posséder une terre. Alors la Bible va donner des réponses un peu à peu comme ça. On se rappelle que dans la première parole publique de Jésus, dans saint Matthieu, il dit à un moment, heureux les doux, ils posséderont la terre. Voilà. Autre chose que ce qui était prévu, posséder la terre. Il me semble que l'Évangile donne des pistes de réponse pour ces questions sur la descendance et la terre, qui sont d'une certaine manière un peu les caractéristiques d'une famille. Une famille, ça se caractérise par une généalogie, voilà, on fait un arbre généalogique, on sait qui est de telle famille. Et puis une famille, ça s'établit quelque part, c'est propriétaire d'une terre ou pas, mais enfin ça réside dans un endroit. C'est une histoire qui s'inscrit dans une généalogie, voilà. Un passé et un avenir aussi, il y a les ascendants, les descendants, et puis c'est un lieu, voilà, c'est l'endroit où réside la famille. Dans l'évangile qu'on a entendu, on nous parle de la famille de Jésus, effectivement, Joseph et Marie, qui sont la famille au sens, on pourrait dire, le plus naturel qu'on peut comprendre. Donc Joseph, par exemple, est bien effectivement de la grande famille d'Abraham, de David, de la grande famille royale dans laquelle Dieu a voulu faire naître son fils. Mais en même temps, voilà, c'est une famille un peu différente quand même, parce que Jésus est de cette famille, mais il n'est pas, au sens le plus naturel, le descendant de Joseph. Donc il y a cette famille qui accomplit, même si c'est d'une façon un peu inattendue, la promesse faite à Abraham. Une famille selon la chair, une famille selon la loi, une famille dans la tradition d'Abraham, de David et de tout Israël. Cette famille qui est le groupe dans lequel Jésus va pouvoir grandir en taille, en intelligence, en sagesse, recevoir tout ce dont un enfant a besoin. Et puis, puisqu'on parle de famille, il y a quelqu'un d'autre qui fait irruption dans le temple, c'est Siméon. Et je crois qu'en fait, Siméon, le jour où il est entré dans le temple, quand on présentait l'enfant Jésus, est aussi entré dans la famille de Jésus. Pour moi, l'indice le plus probant de cela, c'est qu'il fait le geste, qui est un geste familial, en fait, d'accueil d'un petit enfant. Il a l'enfant Jésus dans ses bras. Alors, prendre l'enfant Jésus dans ses bras, c'est sans doute ce qu'a fait Marie, la première, voilà. Ça fait Joseph aussi, sans doute. Et puis, ce jour-là, c'est ce que fait Siméon. Et Siméon, en fait, je viens de dire une petite bêtise, n'a pas pris l'enfant Jésus dans ses bras, on dit qu'il l'a reçu dans ses bras. Voilà. Il l'a reçu, on ne sait pas qui le lui a mis, donc, on ne sait pas pour qui fait quoi dans la Bible, c'est souvent que Dieu est un petit peu derrière ça. Et voilà, Dieu s'est arrangé pour que Siméon ait l'enfant dans ses bras et devienne... On ne va pas dire ni le père, ni le grand-père, ni l'oncle, ni je ne sais qui, mais entre en tout cas dans la famille de cet enfant. Voilà que la famille de Jésus s'élargit d'un seul coup. Ce n'est plus seulement la famille selon la chair, celle qui est issue d'Abraham, naissez la famille comme Jésus la décrira un peu plus loin dans l'Évangile, de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà ce que faisait Siméon, qui était un homme pieux, qui attendait, et il est probable que Siméon, toute sa vie, a médité spécialement l'Écriture. Pour pouvoir reconnaître dans cet enfant le Messie, il fallait avoir effectivement écouté la parole de Dieu et l'avoir gardée. Alors on dit que Joseph et Marie sont la famille la plus naturelle de Jésus. Ils sont aussi cette famille au sens nouveau du terme. Parce que celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde par excellence, c'est la Vierge Marie. Celui qui a foi dans le Seigneur, qui met toute sa confiance en lui, c'est Joseph qui entend les annonces que Dieu lui fait et qui y obéit en toute confiance. Mais Siméon représente cette espèce de nouveauté de la famille de Jésus. Quant à la terre, on a juste une allusion, là, je pense, dans l'Évangile, mais là aussi, la terre, c'est quelque chose qui va beaucoup s'élargir. Si la terre, c'est le lieu où réside la famille de Jésus, eh bien, Siméon, lui aussi, nous fait une annonce. Quand il reconnaît dans cet enfant la gloire d'Israël et aussi la lumière des nations. Voilà que la terre, c'est-à-dire le lieu où habite la famille de Jésus, ce n'est pas seulement la terre d'Israël, c'est aussi toutes les nations, c'est-à-dire les peuples païens. Ce qu'on appelle les païens, les gentils, les grecs, c'est-à-dire tout le monde. Voilà que là aussi, la terre et la famille de Jésus s'élargissent de manière considérable, pas seulement la lignée venue d'Abraham aussi, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mais beaucoup plus largement, tous ceux qui entreront dans cette famille en recevant, comme Siméon, l'Esprit qui les fait entrer, reconnaître le Messie et entrer dans cette famille. Alors que le Seigneur, aujourd'hui, nous donne de prier justement pour que la famille de Jésus s'élargisse toujours, qu'elle devienne aussi grande aux dimensions du monde, qu'elle s'ouvre à tous ceux qui veulent bien reconnaître en lui le Messie qu'Israël a attendu et que Siméon a reconnu.